Merci Laurence. Et merci à vous d'avoir la gentillesse et la patience de m'accueillir tous les mois. Alors, ce matin, comme à chaque fois, j'assume l'entière responsabilité de mes propos. Si mes propos vous choquent, vous troublent, vous déconcertent, mea culpa. Vous pouvez venir me voir. Néanmoins, j'ai essayé, j'allais dire dans la nuit, en tous les cas, au très petit matin, quand vous dormiez encore, de faire entrer dans cette méditation, et Laurence l'a dit, c'est le psaume 23, des éléments, des pensées que nous avons partagées hier après-midi. Hier après-midi se réunissait, comme tous les samedis après-midi, je suis là, le groupe dit de formation à la prédication, et nous avions prévu pour hier d'échanger nos réflexions sur le psaume 23, comment ce psaume peut devenir parole pour nous aujourd'hui. Voilà. Mais tout ce qui est bon vient des 7 ou 8 qui étaient là, et ce qui n'est pas bon vient de moi. D'accord ? Alors, j'aimerais vous inviter à commencer par un petit exercice mental. D'accord ? Alors, j'aurais aimé vous inviter à ce que vous vous pensiez comme un aigle, un taureau, un ours, un lion. Vous savez, tous ces animaux que les puissants du monde aiment beaucoup, auxquels ils aiment s'associer. Malheureusement, je ne peux vous inviter à vous associer qu'à un mouton ou une brebis. Hein, vous avez le choix, mouton et brebis. Donc, voilà, essayez d'entrer dans la mentalité d'un mouton, d'une brebis. Évitez le bélier, c'est encore plus stupide et plus violent. Donc on élimine le bélier, le mouton ou la brebis. Et bien évidemment, pas n'importe quelle brebis. Hein ? Oh non, ça n'est pas la brebis galeuse, certainement pas. Pas à mes yeux en tous les cas. Non. Essayez d'entrer dans cet état d'esprit que pouvait être celle de la fameuse brebis de la parabole, celle qu'on appelle la brebis égarée. Alors, relisez dans l'évangile de Matthieu ou dans l'évangile de Luc, je pense que vous connaissez cette parabole, cette brebis qui s'est perdue dans la montagne et dont Jésus raconte que, parlant finalement de lui, le berger a fait l'effort de regrimper dans la montagne, de retourner dans la montagne. La montagne, par définition, ça grimpe, ça monte. Qu'il a fait l'effort de la chercher, de la rechercher, et qu'il l'a retrouvée. Et la parabole nous dit que l'ayant retrouvée, il la ramène, la portant, c'est ce que dit la parabole, la portant joyeusement sur ses épaules. Alors, essayez d'entrer dans cette esprit-là, vous êtes le mouton, vous êtes la brebis qui était perdue. Vous étiez perdu dans la montagne. Alors, je dois dire que, faut le savoir quand même, si je connais un peu les moutons, ma femme est galloise, on a passé énormément de temps au Pays de Galles. Le mouton, c'est un animal, il est très sympa, très joli, très mignon, mais il est un peu stupide. Parmi les animaux, c'est probablement un des plus stupides qui soit. Vous étiez perdu dans la montagne, c'est-à-dire que vous aviez peur des prédateurs, peur du loup, peur de tomber dans la crevasse, peur de tomber dans la falaise, peur de vous laisser emporter par un torrent en furie, peur parce que vous étiez dans la solitude, seul. La brebis égarée, le mouton perdu, ce qu'il connaît, c'est la peur. La peur. Il sait que sa vie est en danger. Bien voilà, la bonne nouvelle, c'est fini maintenant. Maintenant, vous êtes en sécurité. Votre berger, notre berger, a grimpé au haut des escarpements. Il a fouillé, il a cherché, il a été dans les creux, dans les bosses, dans les ravins. Et il vous a trouvé, il vous a sauvé. Bien, c'est dans cet état d'esprit de celui qui a été habité de peur, de détresse, mais qui maintenant est sauvé, maintenant est sur les épaules du berger, c'est dans cet état d'esprit que jaillit alors ce psaume, que jaillit notre reconnaissance, que jaillit cette louange, cette prière, dont je pense, je sais que certains pourraient la réciter par cœur. N'ayez crainte, je ne vous le demanderai pas. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait coucher, reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Amen. Comprenez que c'est tout autre chose de faire cette proclamation quand on a éprouvé la détresse, le risque de la mort, de la solitude et de la peur, que de le faire juste comme une jolie parole bucolique. Parce qu'en vérité, ce psaume 23, c'est une déclaration de foi. C'est une déclaration d'espérance liée à une expérience de salut. Et c'est ainsi que s'ouvre et que se clôt ce psaume. C'est le Seigneur qui est mon berger. Et c'est dans la maison du Seigneur que je reviendrai. C'est vraiment la déclaration de celui qui a éprouvé cette incroyable délivrance. Le croyant dit sa foi dans le Seigneur de l'Alliance. C'est bien, le Seigneur est mon berger. Et dans le langage biblique, ce mot Seigneur, qui est le fameux tétragramme divin, nous renvoie toujours à celui qui est le Dieu qui a élu Israël. Pas n'importe quelle divinité. C'est le Dieu qui a délivré Israël. C'est le Dieu qui a conduit Israël au travers du désert. C'est le Dieu qui a abreuvé et nourri Israël de sa Torah, de sa loi, de sa parole. Mon berger, c'est le Seigneur. Et dire ainsi sa foi nous engage. C'est lui, et ce n'est pas un autre. C'est lui et c'est lui seul. Et il l'est parce qu'il est venu à mon secours. Aucun des pseudo-bergers qui courent le monde, vous savez, aucun de ceux que Jésus... Alors là, je vous renvoie à l'évangile de Jean au chapitre 10 où Jésus fait une relecture du psaume 23 et d'un certain nombre d'autres textes qui évoquent le berger. Jésus qualifie ces pseudo-bergers de mercenaires, c'est-à-dire des pseudo-bergers pour qui, moi, brebis du Seigneur, mouton du Seigneur, je suis qu'une valeur marchande, qui ne les intéresse que pour des raisons strictement économiques. Le Seigneur et lui seul est mon berger. On n'a pas toujours conscience de la dimension, excusez-moi du terme, mais de déclaration politique de cette expression-là. Parce que dans le Moyen-Orient ancien, la figure du berger est une figure courante pour évoquer le pouvoir royal et le pouvoir religieux. Il n'y a pas de laïcité à l'époque, hein, tout est intimement lié. Alors, essayez de vous souvenir un petit peu d'images que vous avez eues, on en a beaucoup en France, des images qui représentent les pharaons égyptiens. Bien, très souvent, vous avez une image, alors de profil, bien évidemment, où le pharaon tient en main ce qu'on appelle en copte, en égyptien, l'éka. C'est ce bâton recourbé, qui est aussi la crosse épiscopale, qui est un des outils du berger, celui avec lequel il isole une brebis du troupeau. Vous voyez, c'est une crosse, hein, une canne qui tourne en haut. Eh bien, les pharaons et un certain nombre de rois du Moyen-Orient ancien se prétendaient les bergers du peuple. Mais ces bergers-là, je crois que ce n'est pas mensonge que de le dire, ils cherchent plutôt à tondre la laine sur notre dos. Un ancien supérieur des Dominicains, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose, c'est un cardinal qui a participé là, récemment à l'élection du nouveau pape, Timothy Radcliffe, dit que dans tout tyran, dans tout despote, dans tout dictateur, il y a quelqu'un qui se prend pour un messie. Il y a quelqu'un qui se prend pour un berger. Et là, je vous invite à relire le chapitre 34 du prophète Ézéchiel. Vous avez un chapitre terrible où sont maudits, il y a une malédiction sur ces mauvais bergers qui sont des pilleurs de troupeaux, ces bergers qui exploitent le troupeau, ces bergers qui le terrorisent, qui n'ont aucun respect de la brebis. Aucun respect de la mouton. D'ailleurs, la brebis n'existe pas, il n'existe que le troupeau, la masse. Ce sont de mauvais bergers. Eh bien, dire « le Seigneur est mon berger », c'est récuser les prétentions des tyrans. Alors, pour le dire aujourd'hui, on n'est plus dans le monde des pharaons, c'est récuser tous ceux qui cherchent à manipuler nos pensées, à manipuler nos comportements. Tous ceux qui regardent les hommes comme étant des troupeaux, alors que pour le bon berger, pour notre berger, chaque brebis, chaque mouton est précieux. Chacun est connu. Affirmer « le Seigneur est mon berger », c'est dire, pour reprendre le langage de Jésus, que Mammon n'est pas mon berger. Que l'ordre social fondé sur l'argent n'est pas le mien, que ce n'est pas devant cet ordre-là que je me plie, que je n'ai aucune confiance dans cet ordre-là. Face à tous les pseudo-bergers du monde, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, je déclare nul autre que le Seigneur me conduira. Nul autre que le Seigneur est mon berger. Mon berger, c'est le Seigneur. En lui est ma confiance. En lui est ma sécurité. C'est de lui que je reçois le pain de ce jour. Sans ton berger, et disons-le clairement, sans Jésus comme berger, tu t'égares dans l'aridité désertique. Sans ton berger, tu es au risque de te précipiter dans les torrents tumultueux de ce monde. Le Seigneur est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Le Seigneur te conduit sur les sentiers de la justice. Mais combien on a besoin d'être conduit sur les sentiers de la justice ? Alors, dans l'image immédiate de... c'est que le berger conduit son troupeau sur des sentiers sûrs. Même là où la pente est escarpée, il ne les met pas au risque de tomber dans le ravin. Mais pour nous, dans l'entrelac des chemins du monde, quand nous sommes confrontés à l'infinie diversité, à la complexité des choix que nous devons faire. Or, vous savez que c'est une des caractéristiques de la modernité. Nous sommes constamment placés devant des choix difficiles. Lui, dans ses choix, si nous le suivons, si nous l'écoutons, s'il est vraiment notre berger, il nous conduit vers les sentiers de justice. Il ne nous laisse pas nous égarer dans des choix qui nous éloigneraient de lui, qui nous éloigneraient de son royaume, qui nous éloigneraient de la maison du Père. Et il le fait pour l'honneur de son nom. Il le fait parce qu'il y a dans notre Seigneur, il y a en notre Dieu, une unité profonde, indissociable, entre son être et son commandement. Tous ses commandements expriment l'unité de son être. Et vous noterez dans le psaume 23, le pluriel nous conduit dans les sentiers de justice, ou les bons sentiers. C'est que la vie conduite par ce berger n'est pas non plus une vie statique. Il n'est pas venu nous chercher pour nous enfermer dans un parc derrière quelques barbelés ou quelques fils électriques. Le Seigneur me conduit, le Seigneur me déplace, le Seigneur me change de lieu. Pour leur dire dans le langage d'aujourd'hui, le Seigneur change mes projets, il change mon avenir. Il engage ma vie dans des directions inattendues, tout autre que celle que le cours social ordinaire m'aurait poussé. Pensez à ces sentiers de justice, des chemins de vie nouveaux, des chemins de vie imprévus s'ouvrent devant nous. C'est le Seigneur qui les ouvre. Quand mon avenir ne résulte plus de choix dictés par des plans de carrière, par des objectifs de réussite. Ce sont aussi souvent, et je crois que beaucoup d'entre nous pourraient porter témoignage, des chemins de justice qui nous sortent de nos échecs. Quand nous sommes en échec, échec de vie, échec scolaire, échec de projet, échec professionnel, tout à coup le Seigneur ouvre un chemin de vie. Il ouvre un sens, il ouvre un horizon à notre vie. Ces sentiers de justice sont nos modes de vie, les choix que nous faisons à cause de cette liberté que nous apporte le Seigneur, qui est son don. Vous vous rappelez ce texte de l'Épître aux Galates, c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Persévérez dans la liberté, tenez donc ferme, marchez par l'Esprit. Chemin de justice. Ce psaume veut te transmettre le courage de la confiance pour vivre autrement. De cette expérience du danger, cette expérience de la peur vers lequel le Seigneur a marché vers toi pour t'en tirer, pour t'en sauver, doit naître presque une culture de la confiance. Véritablement une culture de la confiance dans ce bon berger. C'est à cause de son nom qu'il me conduit sur les sentiers de la justice. Ce que le Seigneur accomplit envers moi, je le redis, à mon égard, à ton égard, exprime l'harmonie absolue entre son être et sa relation au monde. On peut aussi le dire dans un langage plus habituel des Écritures, Dieu est amour. Il n'y a pas de discordance en lui, il n'y a pas en lui d'intention cachée, il n'y a pas dans notre berger de manipulation obscure. Nous n'avons pas à craindre de déception. Je redis, en Jean 10, les bergers du monde sont perçus comme des mercenaires, dont l'action est conditionnée par leur propre intérêt. La fidélité du Seigneur est constante. Constante est la gratuité de sa bonté. Mais parfois, ces sentiers de justice, ils empruntent le ravin de l'ombre de la mort. Alors même là, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence, tu es avec moi. C'est pas que je suis devenu fort c'est que tu es avec moi, dans les moments les plus difficiles. Toi, Seigneur, tu es là. Alors, vous savez que ce psaume 23, Est-ce que vous avez un petit peu d'histoire chrétienne derrière vous? Vous savez qu'on le lit souvent, je l'ai fait moi-même, au chevet d'un malade. Ou que c'est un psaume qu'on va lire très régulièrement devant la tombe, cette terre à laquelle on confie le corps d'un défunt. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire, il a du sens là. Mais n'oublions pas qu'il y a bien d'autres ravins dangereux que nous traversons. J'évoquais hier ce ravin de l'insécurité économique. Quand tout à coup, tous nos projets se trouvent d'un seul coup arrêtés parce qu'on vient de perdre son boulot. Parce que quelque chose vient de nous arriver qui nous met en situation de détresse, de péril, sans assurance quant à l'avenir. Les ravins vers lesquels nous entraînent nos pulsions mauvaises, nos addictions. Ce ravin qui s'ouvre sous nos pieds dans une déception amoureuse, dans un échec conjugal, et parfois même un échec conjugal qu'on n'a pas vraiment vu venir. On est au risque d'un ravin porteur du nombre de morts. Ces ravins dangereux, ces abîmes où nous craignons tant de voir nos enfants disparaître. Combien de parents n'ont jamais eu cette peur quand l'enfant atteint une certaine autonomie, quand il devient ado, quand il passe au collège, quand il passe au lycée, quand il rentre dans la vie, cette peur des ravins qui allaient s'ouvrir. Tant de ravins où l'ombre de la mort s'étale et qu'il nous faut bien traverser. Eh bien là, je dis encore, tu dis encore, même là, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et Jésus, notre berger, l'a promis, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire en toute circonstance, en toute situation, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Parce que ce bon berger, qui est-il? Et qui mieux que Jésus peut incarner le berger de ce psaume? Vous savez que là encore, l'évangile de Jean, qui fait vraiment écho au psaume 23, évoque Jésus comme ce bon berger dont la voix apaise et rassure les brebis. Sa voix est connue de ses brebis. Il les connaît chaque brebis par son nom. J'évoquais hier dans le petit groupe en parlant une ferme qui se construit à côté de chez moi. Alors j'étais le premier à signer la pétition contre, je ne vous le cache pas, qui a la prétention de vouloir accueillir 1000 veaux. Actuellement, elle en est à 500 et elle veut croître pour une ferme à 1000 veaux. Et en fait, chaque animal a un code barre. Il n'y a plus de nom. L'animal n'a plus de nom. Il a un code barre. C'est un objet. Il est devenu un objet. L'Écriture nous dit que le Seigneur connaît chacun de nous. C'est-à-dire que toi, il te connaît par ton nom. Et n'est-il pas lui le berger qui donne sa vie pour ses brebis? C'est aussi ce que nous dit l'Écriture. Lui qui a traversé le ravin d'ombre et de mort du Golgotha. Lui qui est monté sur cette montagne qu'est le Golgotha. Lui qui a été confronté à toutes les tentations et qui a été conduit au sentier de justice. Lui qui est revenu de la tombe et qui demeure pour l'éternité à la droite du Père. Lui est légitimement le berger de notre confiance, le berger de notre espérance. C'est sur la montagne de Golgotha qu'il est venu nous chercher. C'est là que sa croix a été plantée. En vérité, sa houlette, c'est sa croix. C'est la mort même qu'il a vaincue pour nous sauver de la mort, pour nous sauver de la peur de la mort. Là, dans les ravins ténébreux de nos jours, ton bâton, ta houlette, ta présence, Voilà qui me rassure. Ces outils de berger, regardez-les bien. C'est la croix du Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, ce psaume qui est le psaume de notre foi, qui est le psaume qui exprime tout ce que le salut produit en nous de reconnaissance et de confiance, eh bien aussi, Jésus incarne ce psaume. Ce psaume, Jésus l'a vécu. Ce psaume me parle de la vie de Jésus. Ce psaume est la prière de ma foi en celui qui est à la fois le berger et l'agneau de Dieu. Relisez le chapitre 7 de l'Apocalypse. Il y a cette parole étonnante, verset 17, où il est dit que l'agneau sera leur berger. Jésus-Christ est à la fois l'agneau de Dieu et le berger, notre berger. C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, ce psaume est notre prière de reconnaissance. Elle est notre confession. Elle est notre assurance, elle est notre espérance. Oui, bonheur et fidélité nous sont assurés. Alors qu'en son Christ, le bon berger et l'agneau de Dieu, le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Je vais juste terminer par la prière, mais j'aimerais ce dimanche emprunter une prière à un père, ce qu'on appelle un père apostolique, Clément de Rome. Alors Clément de Rome, il est décédé en 106, c'est-à-dire juste à la fin de la période apostolique. Voilà. Et nous avons de lui cette prière, qu'elle soit la nôtre. Nous t'en prions, ô Tout-Puissant, sois notre secours et notre défenseur. Sauve les opprimés. Prends en pitié les petits. Relève ceux qui sont tombés. Montre-toi à ceux qui sont dans le besoin. Guéris les malades. Ramène ceux qui de ton peuple se sont égarés. Donne la nourriture à ceux qui ont faim. La liberté à nos prisonniers. Redresse les faibles, console les craintifs, et que tous les peuples reconnaissent que seul tu es Dieu, que Jésus-Christ est ton enfant, que nous sommes ton peuple et les brebis de ton bercail. Puisque c'est notre prière, nous disons Amen.